est 5h13, le 5-7 à sa bibliothèque Marine et tous les vendredis, nous y piochons un livre. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Minoz.
Aujourd'hui, l'histoire de l'humanité racontée en 515 cartes.
Exactement, avec deux auteurs, Christian Gratalou qui est géohistorien et Patrick Boucheron, historien. Alors Christian Gratalou est avec nous ce matin, c'est le plus historien des géographes et c'est une grande première cet atlas parce que chaque carte est numérotée et vous allez sur le site de la revue Histoire et vous obtenez la carte qui vous intéresse. Pas mal, non?
Ah, c'est pas mal.
Ah oui. Alors, question à Christian Gratalou, question qui me trottait dans la tête. Comment explique-t-on qu'il y eut des peuples navigateurs et d'autres peuples habitant les littoraux qui ne furent pas des navigateurs?
D'abord, on a beaucoup sous-estimé les capacités de navigation d'Homo sapiens.
Ça commence bien.
Ah oui, mais sinon d'ailleurs la Terre n'aurait pas été peuplée d'humains comme nous, et même s'il n'y avait pas eu de navigation. Par exemple, les aborigènes australiens qui sont présents depuis 60 000 ans à peu près, comment auraient-ils fait s'ils n'avaient pas pu franchir quelques détroits? Alors certes, le niveau marin était plus bas, parce qu'il y avait des glaciations, mais malgré tout, il fallait quand même franchir des mers. Au 19e siècle, on n'y croyait pas. Ils ont tout simplement navigué sur des radeaux, sans doute à vue, parce que les détroits étaient à ce moment-là assez peu importants.
Parce que les océaniens, grands navigateurs, eux, voilà. C'était avec la voûte céleste.
Voilà, alors les océaniens, effectivement, là, c'est les grands navigateurs. Avant que les Européens se mettent au 15e siècle à s'intéresser à l'Atlantique, les plus grands navigateurs du monde qui ont parcouru pratiquement plus de la moitié du globe, presque les deux tiers, parce que si on va non seulement des côtes américaines, qu'ils ont sans doute atteintes, jusqu'à Madagascar, car le peuplement de Madagascar, les langues malgaches, c'est des langues de famille polynésienne. C'est un peuple d'origine polynésienne. Donc vous avez là une navigation absolument extraordinaire et qu'on oublie souvent. C'est pourquoi d'ailleurs dans l'Atlas, il y a une carte du peuplement du Pacifique qui est au tout début. Ces peuples étaient importants, de remarquables navigateurs.
Et de remarquables architectes marins.
Ah oui, il y a des bateaux fantastiques. On en a des traces quand les Européens les ont peints au XVIIIe siècle. Les pirogues de haute mer étaient absolument formidables. Et surtout, c'était des cartographes. C'est ce qui m'intéresse le plus, la cartographie maritime polynésienne traditionnelle dont nous avons heureusement quelques très beaux exemplaires. C'est des cartes de navigation faites de réseaux, c'est-à-dire c'est des morceaux de bois attachés avec des herbes sur lesquels il y a des petits cailloux qui représentent aussi bien des îles que des étoiles. Car c'était effectivement de grands navigateurs par étoile. Il y a un personnage qui est resté célèbre, les Européens ont appelé Tupaya, que Cook a rencontré à Tahiti. C'était lors de son deuxième voyage et qu'il a emmené sur son bateau, dont il a fait une transcription d'une de ses cartes. Et Tupaya lui décrivait les îles depuis l'île de Pâques jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Il avait la carte du Pacifique en tête. Je vais prendre un exemple beaucoup moins connu encore que celui des Polynésiens, les Inuits. On a une carte du Grand Nord, tout à fait inédite. Lorsque les Inuits sont venus il y a 5000 ans à peu près, ils ont commencé leur première migration depuis la Sibérie, ils l'ont fait par bateau, par kayak, jusqu'au Groenland. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette chose extraordinaire que de l'extrême pointe de la Sibérie orientale jusqu'au Groenland, on parle la même langue. Avec des variantes, hein. Vous avez là quelque chose qui est une navigation absolument extraordinaire et un peuple qui est resté navigateur sur des mers terribles. Hein. On a là une navigation extrêmement ancienne avec un peuple rare.
Et alors, l'autre question, comment se fait-il qu'il y ait eu des peuples vivant sur les littoraux mais qui ne furent jamais marins navigateurs?
Alors, effectivement, c'est très juste. Il y a des peuples qui se structurent sur un réseau maritime. Un bon exemple, ce sont les tout premiers habitants du Japon. Là, vous avez aujourd'hui des grandes traces archéologiques de l'époque qu'on appelle Jomon dans l'histoire japonaise, qui nous ont laissé, entre autres, d'énormes tas de coquillages, de coquilles d'huîtres ou d'autres coquillages, parce que tout littoral est d'abord un extraordinaire réservoir d'alimentation, à la fois terrestre et maritime, avec toutes les mixités possibles, la diversité des plantes, la diversité des animaux, des mollusques en particulier. Vous avez des sociétés qui privilégiaient les littoraux et qui pouvaient éventuellement pêcher en mer, mais il y avait tellement de richesses souvent sur le littoral qu'il n'était pas forcément nécessaire d'aller en mer. Le Japon, sa matrice, c'est la mer intérieure, l'espace entre les trois îles du Sud. Et cette mer intérieure de près de 500 km, c'est la vraie matrice de la société japonaise.
Voilà l'histoire de l'humanité, Mathilde, racontée en 515 cartes aux éditions Les Arènes par Christian Gratalou et Patrick Boucheron et le site de la revue l'histoire.fr.
José-Manuel Lamarque pour les chroniques littorales.